Vous écoutez bien RFI, midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous. L'Europe a besoin de l'Amérique et l'Amérique a besoin de l'Europe, déclaration de la chef de la diplomatie européenne. Alors que les dirigeants de l'UE sont réunis là à Bruxelles, sommet informel pour discuter de défense et des menaces de hausse des droits de douane des États-Unis. On verra quelles sont les premières conséquences des augmentations imposées au Canada, au Mexique et à la Chine. À suivre aussi le président sud-africain qui réaffirme son soutien à la République démocratique du Congo. Les conservateurs allemands en congrès, la CDU très critiquée pour son rapprochement avec l'extrême droite, le parti AFD. En France, le budget 2025 devant les députés cet après-midi. Le Premier ministre François Bayrou va dégainer son premier article 49.3 pour le faire adopter. Et puis Martin Fourcade ne sera pas président du comité d'organisation des JO d'hiver 2030. Le multiple champion olympique de biathlon renonce. Le journal des sports, c'est dans un quart d'heure.
RFI Midi. La réunion est qualifiée de retraite par le président du Conseil européen.
Réunion informelle, donc, des dirigeants de l'UE, plus le Premier ministre britannique, plus le patron de l'OTAN, sommet dédié à la défense du continent. Sommet que vous suivez, Pierre Benazet. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes en direct. Alors, on parle de défense, point de vue militaire, mais aussi défense commerciale, hein, alors que Donald Trump vient d'imposer de nouveaux droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine.
Effectivement, et dès hier, la Commission européenne a commencé à promettre une riposte ferme si l'Union devait être attaquée par des droits de douane qualifiés d'injustes ou d'arbitraires. Ce matin, Emmanuel Macron ajoute que si l'UE est attaquée, elle devra se faire respecter. Nous pouvons réagir aux politiques douanières avec des politiques douanières, selon le chancelier allemand Olaf Scholz. Or, Donald Trump n'a pas fait mystère de ses intentions. Il veut absolument imposer le droit de douane aux Européens qui sont méchants parce qu'ils ne s'achètent pas de voitures, de produits agricoles ou d'hydrocarbures aux États-Unis. Première réaction aussi de Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, selon qui les Européens doivent trouver une réponse commune.
Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Si les États-Unis et l'UE entament une guerre commerciale, c'est la Chine qui va rire de son côté. Nous sommes très interdépendants. Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a également besoin de nous.
Pour les Européens, la préoccupation aujourd'hui, c'est donc de maintenir un front uni face à Donald Trump. La recherche de cette réaction est compliquée, par exemple, par les déclarations du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui propose les services de l'Italie comme médiateur. Mais en réalité, pour beaucoup ici, les annonces contre le Canada, le Mexique et la Chine sont un coup de semonce qui doit réveiller tous ceux qui avaient la tête dans le sable. Première piste, c'est évidemment d'acheter du gaz naturel aux États-Unis pour essayer de proposer un marché à Donald Trump. Deuxième piste, on y réfléchit depuis des mois. Les Européens ont une liste de produits, de secteurs qui pourraient être frappés de mesures miroirs, de droits de douane en rétorsion. Et puis les accords de libre-échange en route avec le Mexique et le Canada pour montrer à la Maison-Blanche qu'on peut aussi, en Europe, aller jouer dans les pays voisins des États-Unis.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles, ces droits de douane, ces augmentations, le président Trump doit en parler aujourd'hui au téléphone avec les dirigeants du Mexique et du Canada. On le disait, plus 25% de droits de douane pour le Mexique et le Canada, plus 10% pour les produits importés de Chine. Et les conséquences de cette guerre commerciale, de ce début d'offensive, se font déjà ressentir, Nathanaël Vitran, bien au-delà des pays concernés.
Oui, il faut toujours regarder, Charlotte, la réaction des marchés avec prudence, mais à défaut d'autre chose, c'est un bon indicateur de l'humeur du moment des investisseurs. Et autant dire qu'à l'ouverture ce lundi, les investisseurs étaient d'humeur morose. Les bourses reculent un peu partout en Europe après avoir déjà fini en baisse en Asie. Les indices de référence à Tokyo et Séoul ont reculé de plus de 2%, c'est beaucoup. Les constructeurs automobiles européens, Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Stellantis, Renault, sont en première ligne puisque leurs chaînes d'approvisionnement sont particulièrement mondialisées avec des pièces, des composants qui traversent parfois plusieurs fois les frontières avant de finir sur la chaîne d'assemblage finale, ce qui en fait l'un des secteurs les plus exposés à une une guerre commerciale mondiale. Et si la nature a horreur du vide, les marchés, eux, exècrent l'incertitude. Leur réaction épidermique prouve à quel point la période qui s'ouvre est confuse. Donald Trump, Pierre Benazé le rappelait, a promis que les Européens étaient les prochains sur sa liste. Mais on ne sait pas quand, ni dans quelle proportion, ni même quelle sera exactement la réponse européenne. On ne sait pas et les marchés n'aiment pas ça. Ça, au moins, c'était prévisible.
Nathanaël Vitran, Donald Trump, qui recevra par ailleurs demain le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est déjà à Washington pour discuter de la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza, censé permettre la libération de tous les otages restants et la fin de la guerre dans le territoire palestinien. À propos de la proposition du président américain de déplacer des Palestiniens de Gaza vers la Jordanie et vers l'Égypte, les autorités iranienne mettent en garde face à ce qu'elle qualifie de nettoyage ethnique.
En Syrie, un attentat à la voiture piégée a fait 15 morts ce matin.
15 civils, c'était près de Manbij, donc dans le nord du pays où des factions pro-turques affrontent des forces kurdes. Ce n'est pas le premier attentat de ce genre, Pierre-Olivier.
Oui, alors pour l'instant, l'attentat de ce lundi matin n'a pas été revendiqué. Il a fait 15 morts, dont 14 femmes, et a eu lieu sur une des routes qui permet d'accéder à Manbij, ville située à proximité de la frontière turque. Une voiture piégée a explosé au moment où passait un véhicule transportant des employés agricoles. C'est le deuxième attentat en 48 heures dans cette localité dans laquelle, depuis fin novembre, de violents combats opposent les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes et soutenues par les Occidentaux, au groupe pro-turc. Samedi, déjà il y a 48 heures, un autre attentat à la voiture piégée avait tué 9 personnes, dont plusieurs combattants pro-turcs, toujours aux alentours de Manbij. Là encore, l'explosion n'a pas été revendiquée, mais dans la journée de samedi, les forces démocratiques syriennes ont déclaré dans un communiqué qu'elles avaient ciblé plusieurs positions tenues par les groupes pro-turcs. Pour rappel, ces groupes avaient pris il y a 2 mois le contrôle de la ville de Manbij au FDS, qui la tenait depuis de longues années.
Et j'ajoute cette visite annoncée du nouveau président syrien par intérim en Turquie. Demain, annonce d'Ankara, ce sera sa deuxième visite officielle à l'étranger après l'Arabie Saoudite en vue de la reconstruction du pays.
L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien à la RDC.
Solidarité réaffirmée tout à l'heure par le président sud-africain Cyril Ramaphosa après l'offensive du groupe armé du M23 soutenu par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Muyaya, l'a reconnu hier dans une interview à nos confrères de TV5 Monde. La ville de Goma est, dit-il, aujourd'hui contrôlée en grande partie par le Rwanda. Il répondait à la question de notre consoeur Dominique Chimbakala. Attention, la liaison technique est un petit peu hachée.
Monsieur Muyaya, vous dites qu'il n'est plus possible de garder la population de Goma sous le joug de leurs tueurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC, les autorités congolaises reconnaissent et disent clairement que la ville de Goma est tombée aux mains du M23?
Écoutez, il y a une grande partie de la ville qui est tombée, aux mains évidemment, encore une fois, je vous rappelle, il faut parler de l'armée rwandaise, c'est du M23, parce que la M23 n'existe pas, les unités qui ont opéré sur le terrain, vous avez vu les images, c'est des unités de l'armée rwandaise. Pour des besoins évidemment de stratégie, je ne saurais pas revenir dans les détails de ce qui se fait ou de ce qui se prépare, mais il faut être sûr d'une chose, c'est que notre population ne peut pas rester sous les jougs rwandais, et que le gouverneur militaire, en accord avec toutes les autorités, travaille évidemment pour que ce qui a été dit par le président de la République soit une réalité.
À propos du ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Muyaya. Une explosion dans un complexe résidentiel à Moscou, en Russie, ce matin. Et parmi les victimes, un séparatiste, Armen Sarkissian, fondateur d'un bataillon combattant en Ukraine. C'est ce qu'indiquent les agences officielles russes. L'Ukraine qui dit par ailleurs avoir frappé des installations pétrolières dans l'ouest de la Russie.
Les conservateurs en congrès en Allemagne avec en ligne de mire les législatives du 23 février.
Dans un climat politique électrique crispé par le début de rapprochement entre la CDU de Friedrich Merz et l'extrême droite de l'AFD sur les questions migratoires, brisant le cordon sanitaire en vigueur depuis l'après-guerre, une ligne rouge pour les dizaines de milliers de manifestants qui se sont rassemblés hier à Berlin. On reviendra sur la politique en Allemagne avec votre invité Anne Kantner. Après le journal, en Belgique, le chef des conservateurs flamands, lui, a prêté serment ce matin avec les membres de son gouvernement. C'est donc officiel, Bart De Wever est le nouveau Premier ministre belge à 54 ans. L'ancien maire d'Anvers est le premier nationaliste flamand à prendre la direction du pays, à la tête d'une large coalition qui réunit 5 formations très différentes, Romain Le Maresky.
Plus de 7 mois après les élections fédérales, la Belgique a enfin un nouveau gouvernement, et pas n'importe lequel. Un gouvernement d'un très large spectre, dirigé par l'indépendantiste flamand Bart De Wever, désormais ancien dirigeant de l'Alliance néo-flamande. Un gouvernement qui compte avec la présence des chrétiens démocrates, des socialistes flamands, du mouvement réformateur et des engagés, une formation centriste. Un exécutif qui ne respecte pas la parité, avec 11 portefeuilles ministériels pour des hommes et seulement 4 pour des femmes. En Belgique, les coalitions sont toujours complexes et hétérogènes, explique le quotidien La Libre Belgique. Plus de 7 mois de discussions ont été nécessaires pour parvenir à un accord, sachant que le pays a besoin de réformes qui ne peuvent attendre. Ciblé par une procédure de déficit excessif par l'Union européenne, le gouvernement de Bart De Wever compte dégager 20 milliards d'euros pour rentrer dans les clous. Les mesures annoncées risquent de faire des mécontents, limitation des dépenses publiques, réduction des aides sociales, limitation des allocations chômage, politique plus stricte en matière d'immigration et de sécurité. La Belgique entreprend un virage à droite, mais Bart De Wever va devoir mettre de côté ses velléités indépendantistes, lui qui vient de prêter serment devant le roi des Belges.
La politique en France, les députés doivent examiner à partir de cet après-midi le projet de budget.
Oui, à partir de 16h heure de Paris, chaque voix risque de compter. Le Premier ministre François Bayrou va engager la responsabilité de son gouvernement avec le fameux article 49.3, avec le risque d'une nouvelle motion de censure mercredi ou jeudi. Tous les scénarios restent sur la table, Aurélien de Vernois.
Les calculettes vont être mises à contribution du côté de Matignon, car chaque voix risque de compter. La dernière motion de censure a certes été largement rejetée, mais surtout parce que le Rassemblement National ne l'avait pas soutenu et que les socialistes s'en étaient désolidarisés. Or, le RN pourrait cette fois changer d'avis. L'influent député Jean-Philippe Tanguy a ainsi affirmé dimanche qu'à titre personnel, il était pour la censure, tout en laissant la décision finale à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Du côté du PS, 8 députés avaient déjà choisi de censurer le gouvernement mi-janvier contre la consigne de groupe. Si une quinzaine de plus venait à changer d'avis et que le RN baissait le pouce, François Bayrou serait alors en très grand danger. Le Parti Socialiste va donc être de nouveau au centre de toutes les attentions. Les insoumis et écologistes ont martelé ces derniers jours que le budget en l'état était inacceptable. Si l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin s'est dit contre la censure samedi, toutes les options restent sur la table pour le patron des députés PS, Boris Vallaud. Les concessions concédées par le gouvernement seront-elles suffisantes pour sauver la tête de François Bayrou? Le chemin est étroit, a répété le Premier ministre ce week-end, tout en affichant sa confiance dans les accords budgétaires trouvés.
L'affaire dite du baiser forcé. En Espagne, l'ex-patron du football, Luis Rubiales, devant la justice aujourd'hui, il avait imposé devant les caméras et par surprise un baiser sur les lèvres non consenti à la footballeuse Jenny Hermoso. Ça ne devrait jamais arriver, a témoigné la joueuse à l'ouverture du procès. Et puis enfin, sacré avec le prix du meilleur album de l'année aux Grammy Awards pour Cowboy Carter, la chanteuse Beyoncé, Queen Bee, a reçu la plus prestigieuse des récompenses à la cérémonie qui lui était passée sous le nez hein, plusieurs fois ces dernières années. Cérémonie marquée aussi par le rappeur Kendrick Lamar avec son titre Not Like Us, meilleure chanson et meilleur enregistrement. Et puis eux, ils avaient marqué la cérémonie d'ouverture des JO à Paris en juillet. Souvenez-vous, le groupe de métal français Gojira et la chanteuse lyrique Marina Viotti. Ils ont été récompensés pour leur interprétation fracassante de Asaera.
Voilà, donc Gojira, et tout le monde se souvient de cette performance au moment de la cérémonie d'ouverture sanglante avec une Marie-Antoinette décapitée qui tenait sa tête dans ses propres mains. Voilà, ça avait beaucoup marqué la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en juillet dernier. Merci Charlotte Hydrac. Le prochain journal, c'est dans 3 quarts d'heure sur RFI. Et nous, on va parler de l'actualité sportive. Logique, bon enchaînement, tout de suite. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors avant de parler longuement de football, d'abord cette nouvelle qui concerne les Jeux Olympiques d'hiver 2030 en France.
Un renoncement qui fait presque l'effet d'une bombe, Anne. Le multiple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, vient d'annoncer qu'il ne souhaitait plus devenir président du comité d'organisation de ces JO 2030 pour, je cite, « ne pas sacrifier ses convictions ». Il évoque des désaccords trop nombreux, comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial, et explique dans un courrier adressé aux parties concernées qu'il a pris la difficile décision de se retirer alors que la création du comité d'organisation patine. Depuis l'automne, la création de ce COJO était fixée à ce début de semaine. Elle avait déjà été reportée la semaine dernière au 18 février. Mon ambitieux pour ces Jeux est clair, ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays, explique. Enfin, Martin Fourcade, connu pour être très soucieux de l'environnement. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette. Ce retrait est l'épilogue de mois de tension entre notamment Fourcade, qui avait l'aval du mouvement sportif et de l'Élysée, et l'ex-président de la région, Laurent Wauquiez.
On parle football à présent, en Angleterre notamment.
Où Manchester City n'y arrive pas, décidément, cette saison, alors de façon très épisodique pour un club de ce standing. À chaque rebond suite un flop monumental, qualifié in extremis en milieu de semaine dernière pour les barrages de la Ligue des Champions, les Citizens ont lourdement rechuté hier dans le choc de la 24e journée de Première Ligue à Arsenal, où les Gunners les ont corrigés 5-1. Festival pour William Saliba et ses partenaires face à une équipe qui les avait si souvent dominés ces dernières saisons.
C'est clair, on est très content. C'est une équipe, voilà, même s'ils sont pas en confiance en ce moment, voilà, c'est pas une équipe facile à jouer. Et voilà, on se devait de les battre à la maison et on l'a fait avec la manière, donc c'est top.
Ouais, c'est top, William Saliba, avec nos confrères de Canal+. Arsenal, deuxième à 6 longueurs de Liverpool, qui compte un match en moins. Mauvaise soirée également pour l'autre Manchester United, battu 2-0 par Crystal Palace et 13e seulement au classement, pendant que Tottenham relève la tête avec un succès 2-0 sur Brentford.
En Ligue 1, en France, Marseille bat l'Olympique Lyonnais dans un match à double facette.
Oui, une première mi-temps d'un ennui profond. Il fallait lutter pour ne pas s'endormir. Hier soir, une seconde, alors là, en revanche, spectaculaire, renversante, qui voit l'OM s'imposer 3-2 sur un but de Luis Enrique à la 85e minute. 6e succès de rang dans un Olympico, comme on l'appelle, pour Marseille, qui reste deuxième à 10 longueurs du PSG, tandis que Lyon stagne à la 7e place. Les débuts de Paulo Fonseca sur le banc n'auront donc pas aussi réussi que prévu, comme c'est étonnant. Mais le travail va payer, estime le capitaine Alexandre Lacazette au micro de DAZN.
C'est sûr qu'on n'a pas enchaîné de victoires depuis un moment, mais dans le jeu, c'est pas aussi mal qu'on l'entend ou qu'on le dit. Donc on sait que c'est à nous, on a un nouveau coach, on va travailler, on a une méthode de travail différente, mais j'ai grande confiance en mon collectif. On y croit tous ensemble, donc c'est à nous de travailler cette semaine. On va beaucoup travailler pour bien comprendre et se préparer pour le prochain match.
Le travail, ça paye toujours, Olivier?
Ah bah, a priori, oui.
Allez, les autres résultats de cette 20e journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier.
Un partout entre Toulouse et Nice et Angers face au Havre. Victoire de Nantes 2-1 sur Reims qui enchaîne les contre-performances. Entraîneur sur la sellette du côté de la Champagne. Succès de Rennes 1-0 enfin sur Strasbourg. Succès important après 5 revers de rang, toutes compétitions confondues pour les Bretons. Trop tôt encore pour savoir si c'est déjà la patte Habib Bey qui paye. L'ex-consultant et international sénégalais, l'un des piliers de Radio Foot International, jusqu'à il y a encore quelques mois. Il est arrivé sur le banc rennais il y a quelques jours. Cela devrait l'aider tout de même à travailler avec un peu plus de sérénité.
Merci Olivier Pron. Et puis pour l'actualité du foot, vous l'avez dit, Radio Foot tout à l'heure, 16h10, temps universel.
Comme tous les jours du lundi au vendredi.
Merci beaucoup.
RFI. Le monde à midi.
Tout de suite, on va retrouver notre invité pour parler de cette campagne électorale mouvementée en Allemagne. Les conservateurs de la CDU critiqués pour avoir fait alliance avec l'extrême droite dans le but de faire voter un texte contre l'immigration. On le disait tout à l'heure, au moins 160 000 personnes ont manifesté hier pour dire leur rejet de l'extrême droite. Bonjour Stefan Zeindorf.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg en Allemagne. Jusque-là, il faut le dire, c'était vraiment un tabou dans la vie politique. Qu'est-ce qui a changé ?
Ben, pour l'instant, pas grand-chose. Les décisions la semaine dernière, ça concernait des résolutions, c'est-à-dire sans conséquences juridiques ou législatives. C'était la première fois. On a bien vu que même du côté du CDU, il y avait comme un tremblement après coup. On n'était pas sûr si c'était le chemin à suivre. Mais effectivement, les choses se compliquent en vue de la constitution d'un gouvernement après les élections.
Effectivement, il y a eu déjà, lors de la deuxième tentative de faire alliance avec l'extrême droite, certains élus conservateurs qui se sont désolidarisés. Et puis, on se souvient que la décision avait été critiquée par l'ancienne chancelière Angela Merkel. Est-ce qu'on sait si, dans l'ensemble, le parti conservateur est sur la même ligne que son candidat, Friedrich Merz ?
Difficile à dire. Aujourd'hui commence le congrès de la CDU et donc évidemment on essaye de se ranger derrière le candidat, le chef du parti, et on voit très peu de voix d'opposition interne. On entend même de l'Allemagne de l'Est, des représentants de la CDU en Allemagne de l'Est, que la critique d'Angela Merkel, ça leur servait bien, puisque comme ça les gens ils voyaient que les années Merkel étaient définitivement derrière et que la CDU désormais va représenter quelque chose de plus conservateur. Donc c'est pas bien clair comment tout cela ça va jouer, et pour l'instant c'est le flou, mais c'est à coup sûr le moment décisif de cette campagne.
Alors il y a cette décision de faire alliance avec l'extrême droite, et puis il y a le thème, l'immigration. Pour l'instant, la CDU continue de tout miser là-dessus. Est-ce qu'elle a raison selon vous, politiquement ?
Merz, au début, il voulait faire une campagne sur la situation économique. Et puis, on a eu fait divers à Aschaffenbourg avec l'attaque de quelques enfants de bas âge, un enfant décédé. Et puis, ce sujet, il s'est imposé. Il fallait faire quelque chose. Maintenant, lors du congrès de la CDU aujourd'hui, on compte décider sur 15 mesures urgentes à prendre immédiatement si on gagne les élections. Et dans ces 15 mesures, il y en a 5 qui concernent l'immigration, 10 qui concernent la situation économique, les questions des taxes sur l'électricité, des choses comme ça. Donc ça reste une campagne vaste, et évidemment pour l'instant tout se focalise sur cette question de l'immigration et sur le comportement de la CDU vis-à-vis de l'extrême droite.
Et ça se focalise là-dessus parce que ça trouve un écho au sein de la population ?
Les deux choses qui trouvent un écho. On ne pouvait pas ignorer la question de l'immigration après Aschaffenbourg, mais en même temps aussi, avec ce qui a eu lieu au Parlement la semaine dernière, la question elle est ouverte. Est-ce que la CDU et son candidat elles reviennent sur les promesses qui ont été faites, que jamais, jamais, au grand jamais, on ferait alliance avec l'extrême droite ? On a peu d'indications aujourd'hui, certainement pas sous forme d'une coalition formelle, mais en ce qui concerne des majorités du hasard, en quelque sorte, c'est bien moins clair, et donc cette campagne, elle a trouvé son sujet.
Bon, de toute façon, pour l'instant, d'après les informations que donnent les sondages, la CDU pourrait gouverner seule, ou elle aurait besoin de faire alliance, justement ?
Non, elle aura de toute façon besoin de faire une coalition. Normalement, soit avec les SPD dans une grande coalition, mais qui n'est plus très grande, soit avec les Verts, soit peut-être même avec les deux, puisque ce ne sera pas suffisant. Et évidemment, cela se complique si les deux camps s'opposent diamétralement, comme c'était le cas la semaine dernière. On voit difficilement comment ils peuvent revenir autour de la table et négocier une coalition.
On a parlé de ce qui se jouait au sein du Parti conservateur. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'en pensent les électeurs ? Est-ce qu'eux pourraient sanctionner leur parti s'ils se rapprochaient un peu trop des thématiques de l'extrême droite ?
Difficile. Nous n'avons pas encore vraiment les sondages qui prennent en compte ce qui est arrivé la semaine dernière. Nous avons vu ce week-end les manifestations de masse, 160 000 à Berlin, 65 000 à Hambourg, 40 000 à Stuttgart. Mais évidemment, on peut présumer, c'est surtout des électeurs qui ne voteront de toute façon pas pour les conservateurs, plutôt pour les sociaux-démocrates, pour la gauche. Les députés en campagne de la CDU Ils racontent qu'ils ont le soutien, ils sentent le soutien de la base. Évidemment, ça peut être pour des raisons stratégiques, tactiques, qu'on ne peut pas avouer les critiques auxquelles on fait face, mais il se trouve aussi que c'est un sentiment qu'il a peut-être vu juste, le candidat Merz, et que c'est un sentiment partagé par la population qui, effectivement, attend à ce qu'on propose des nouvelles solutions pour ces questions de l'immigration et des solutions autres que les polémiques que l'extrême droite, dans l'extrême droite, a le secret.
Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va favoriser les conservateurs, ou est-ce que ça pourrait servir à l'extrême droite, en fait, de faire monter un certain nombre de thèmes qui lui sont familiers? L'AFD, par exemple, a appelé là tout récemment à voter pour l'original et pas pour la copie. C'est quelque chose qui pourrait arriver? Est-ce que l'AFD pourrait siphonner une partie des électeurs de la droite dite traditionnelle?
Oui, effectivement, c'est toujours la question. Historiquement, avec l'expérience du Front National en France ou aussi de la FPE en Autriche, on sait que c'est rarement une bonne idée de vouloir copier l'original, que les partis conservateurs qui essayent de s'adapter à des sujets d'extrême droite et à des propositions d'extrême droite, ils n'ont pas grand-chose à gagner. Mais peut-être on n'est pas encore là en Allemagne. De toute façon, c'est les calculs que font Merz et sa CDU avec plutôt cette idée qu'il faut faire une proposition aux 30% des électeurs qui se disent encore indécis pour en ramener quelques-uns à la CDU avec la promesse d'un vrai changement de cap sur l'immigration sans pour autant tomber dans les bras de l'extrême droite. À voir si ce pari peut l'emporter le 23 février.
Merci beaucoup Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg en Allemagne. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci à vous.
RFI reportage à Madrid où l'on compte de plus en plus de latino-américains, plus de 10 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans, 1 million de personnes ayant fui leur pays pour des raisons politiques ou bien pour trouver du travail. Notre correspondante Diane Cambon est allée rencontrer ces nouveaux arrivants dans la capitale espagnole.
Dans son salon d'esthétique situé dans le quartier huppé de la capitale espagnole, Annabelle a parfois l'impression d'être dans sa Caracas natale. Cette Vénézuélienne de 42 ans s'est entourée d'employés qui, pour la plupart, viennent de son pays.
Avant, j'avais beaucoup d'élèves espagnols, mais maintenant, ce sont toutes des latinas. C'est incroyable le nombre de filles d'Amérique latine qui débarquent. Elles viennent de Colombie, du Venezuela, du Brésil, de toute l'Amérique du Sud. Elles cherchent une opportunité de travail et un salaire pour survivre et avoir rapidement leurs papiers. Suivre un cours d'esthétique, c'est une façon facile d'aller de l'avant, d'être indépendante financièrement et d'avoir une stabilité, car la majorité d'entre elles sont des femmes seules ou des mères de famille solo.
Annabelle est arrivée à Madrid en 2018. Elle fait partie de ces migrantes latino-américaines qui affichent sa réussite professionnelle en Espagne. Sa success story, elle la partage avec les jeunes filles latino-américaines qui débarquent tout juste à Madrid et à qui elle vient en aide en proposant des formations de manucure à moitié prix. Sofia, âgée tout juste de 24 ans, a débarqué en Espagne il y a à peine 4 mois. Assise à une table, cette Vénézuélienne apprend à poser de faux longs ongles recouverts de paillettes.
Dans mon pays, je ne pouvais trouver aucun travail. La délinquance est horrible là-bas. Il y a des endroits où seulement pour un regard, on te dépouille. Si tu as une petite boutique, tu dois constamment la surveiller pour ne pas être volé. Sans parler de l'inflation, des taxes ou des loyers très élevés.
La qualité de vie et la sécurité sont les principaux motifs qui poussent aussi ces dernières années des milliers de latino-américains de la classe moyenne ou aisée à traverser l'Atlantique. Sarah, mexicaine et mère de 2 enfants, est venue avec son époux s'installer en Espagne juste après la pandémie.
Les États-Unis n'ont jamais été une option. Ici, nous avons des racines en commun avec l'Espagne. Et en plus, mon époux peut faire valoir que ses grands-parents étaient asturiens, ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité espagnole. On a du coup une certaine connexion avec le pays.
Comme de nombreux latino-américains, Sarah espère obtenir la nationalité espagnole. Au terme de 2 ans de résidence légale en Espagne, la loi permet de solliciter la nationalité à certaines communautés d'Amérique latine. Diane Cambon à Madrid pour RFI.
Reportage à retrouver, comme toutes nos informations, sur notre application RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet rfi.fr. Restez avec nous dans quelques secondes maintenant, toute l'actualité africaine. À tout de suite.